Sunway Assurance, célébrez nos 20 ans d'assurance. Découvrez votre profil en ligne sur monbonprofil.com après avoir suivi votre magazine Priorité Santé. Sunway Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Le paludisme reste aujourd'hui la maladie parasitaire la plus répandue sur la planète avec, d'après l'OMS en 2016, 216 millions de cas recensés à travers 91 pays. Mais un continent, plus que tous les autres, paye le plus lourd tribut à cette maladie transmise par les moustiques. Il s'agit bien sûr de l'Afrique qui abrite à elle seule 90% des cas et supporte 91% des décès. Deux pays, deux géants du continent, le Nigeria et la RDC, concentrent à eux seuls 44% des morts dues au paludisme. Depuis des années, la transmission de la maladie avait pourtant connu une baisse aussi sensible que continue. La lutte contre le paludisme a connu d'importantes avancées à la faveur d'une prévention plus efficace, d'une prise en charge souvent plus précoce et de combinaisons de traitements ciblés. Alors comment expliquer que cette tendance soit inversée pour revenir au niveau de 2012 ? Les efforts actuels en termes de lutte anti-moustique et de mesures environnementales ont-ils atteint leurs limites, dans quelle mesure les résistances menacent-elles l'efficacité des traitements et se pose aussi la question clé du financement, est-il à la hauteur des enjeux? Nous verrons au cours de cette émission que si le paludisme est une maladie très ancienne, sa prise en charge, elle, se renouvelle constamment. Le paludisme continue d'occuper chercheurs, équipes médicales, en quête de vaccins expérimentaux, de combinaisons thérapeutiques comme d'initiatives préventives pour contrer un parasite et son vecteur qui, eux aussi, n'ont eu de cesse de s'adapter. La lutte contre le paludisme, sa prévention, sa prise en charge. Avec nous en studio, le professeur Olivier Bouchot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable du service des maladies infectieuses et tropicales au CHU Avicenne à Bobigny en région parisienne. Et vous présidez également l'association d'accueil aux médecins et personnels de santé réfugiés en France. Tout à l'heure, nous retrouverons en ligne de la République démocratique du Congo le professeur Hippolyte Sitwakibanza, maître de la chaire des maladies infectieuses et tropicales à l'Université de Kinshasa, expert au programme national de lutte contre le paludisme en RDC. Vos témoignages et vos questions, on attend bien sûr vos appels au 33 84 22 75 75. Et en fin d'émission, vous retrouverez le docteur Catherine Solano, sexologue, qui répondra à des questions d'auditeurs.
Priorité santé sur RFI.
Professeur Olivier Bouchot, j'évoquais ce rebond des cas de paludisme, retour au niveau de 2012 en termes de cas. Comment expliquer ce regain de la transmission, même s'il ne s'est pas traduit en termes de cas mortels, hein?
Alors, c'est un rebond relatif. Disons après une chute qui a été très franche pendant, en gros depuis les années 2000, on sent effectivement qu'on est parti en plateau avec une petite remontée, d'ailleurs de façon assez amusante, mais finalement c'est compréhensible. Dans le paludisme d'importation en France, on voit ce même plateau et cette petite remontée. Donc il y a une espèce de parallélisme. Alors, comment l'expliquer? Le paludisme est une maladie extrêmement complexe. Il y a beaucoup d'interrelations avec l'environnement. Il y a donc un parasite, mais il y a aussi un vecteur. Et puis, il y a les personnes, donc ce qu'on donne, dans notre jargon, on appelle les hôtes réceptifs. Et autour de tout ça, il y a ce qu'on appelle l'immunité, qui facilite les choses ou qui freine la transmission. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a eu une amélioration? C'est qu'il y a eu des très très gros efforts qui ont été faits pour faciliter l'accès au traitement. On reparlera probablement de ces traitements tout à l'heure. Faciliter le diagnostic avec la diffusion des tests rapides, qui permet d'avoir un diagnostic quasiment immédiat. Et puis, un effort qui a été fait aussi sur la lutte contre les vecteurs, avec des grandes campagnes de fourniture de moustiquaires imprégnés. Tout ça a des limites. Et ce dont il faut bien prendre conscience, c'est que les gros progrès qui ont été faits au début sont assez faciles à obtenir, parce que quand on met les moyens et qu'on a les outils qui marchent, eh ben, il y a une telle marge de manœuvre au début que c'est spectaculaire, on voit que ça baisse. Et puis dès qu'on commence à approcher, alors non pas de la fin, parce qu'on est très 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 loin, mais dès qu'on a gagné ce qui est facile à obtenir, ça devient beaucoup plus difficile, et ça sous-entend, et votre commentaire était tout à fait pertinent tout à l'heure, ça sous-entend que paradoxalement, à une progression plus faible, il faut mettre des moyens plus importants.
On affine le plan d'attaque.
Voilà. Et ça, les bailleurs de fonds ont souvent beaucoup de peine à comprendre que pour gagner moins en bénéfice, hein, pour les populations, en gros, en nombre de palus, pour baisser un tout petit peu le nombre de paludisme et diminuer encore un petit peu la mortalité, il faut mettre encore plus de moyens que ce qu'on avait mis pour gagner beaucoup plus avant. Et c'est probablement une des raisons.
Alors, le paludisme, vous l'avez dit, maladie parasitaire, maladie vectorielle. Est-ce qu'on peut, professeur Olivier Bouchaud, parler d'une maladie chronique ?
Alors, en matière de paludisme, non. Parce que c'est une maladie qui se transmet ponctuellement par un moustique. On fait un accès aigu. Et pour... Alors, il y a plusieurs espèces de paludisme. Il y a plusieurs espèces de parasites. Mais pour l'espèce principale, qui s'appelle Plasmodium falciparum, une fois qu'on est guéri, on est guéri. Par contre, on peut être réinfecté, et on peut être réinfecté 10 fois, 15 fois, 20 fois dans l'année. Ça, y a pas de limite. Alors, je mets un tout petit bémol à ça. Le premier bémol, c'est qu'il y a quand même une forme, mais qui est en fait très rare, qui n'a pas de rôle dans l'épidémiologie générale du paludisme, qu'on appelle le paludisme viscéral chronique, qui est donc une forme un peu particulière de paludisme un peu traînant. Mais quand on dit chronique, ça peut être quelques semaines ou quelques mois, ça n'est pas à vie. Et puis il y a trois espèces de plasmodium, donc d'agents du paludisme, qui peuvent donner ce qu'on appelle des réviviscences, c'est-à-dire qui, après un accès initial, après avoir été, que la personne a été infectée initialement, qu'elle ait fait un premier accès fébrile, il y a des formes de refuge du parasite. Pour deux espèces, c'est au niveau du foie, pour la troisième espèce, c'est au niveau des globules rouges du sang, qui fait que, sans avoir été réinfecté, le parasite peut se réexprimer, se réactiver et redonner une crise fébrile plusieurs mois, voire même plusieurs années après la crise initiale.
Et ces formes parasitaires sont moins fréquentes en Afrique, peut-être plus fréquentes sur le continent asiatique ?
Alors effectivement, un des parasites les plus connus, c'est Plasmodium vivax, qui est rare en Afrique, beaucoup plus fréquent en Asie et en Amérique tropicale. Mais il faut quand même être clair, d'un point de vue épidémiologique, l'essentiel du poids du paludisme dans le monde, et notamment en Afrique, est dû à Plasmodium falciparum.
Et justement, on parlait des progrès tout à l'heure en termes de chiffres généraux. Malgré tout, hein, professeur Bouchaud, en Afrique aujourd'hui, le paludisme, c'est toujours la première cause de recours aux soins, première cause d'hospitalisation.
Oui, alors je mettrai un tout petit bémol. Disons que ce sont les fièvres qui sont les premières causes de recours aux soins. Et pendant très longtemps, mais quelque part c'était un très bon réflexe, il y a eu une espèce de superposition entre fièvre et paludisme.
Justement, comment on distingue les deux ? C'est avec ces tests, tout à l'heure vous parliez de ces tests de diagnostic rapide. Quand on est chez soi, d'ailleurs, décider d'aller à l'hôpital ou pas, c'est une décision importante à prendre. Comment on distingue, surtout pour les plus jeunes, puisqu'on a dit tout à l'heure, il peut y avoir un danger particulier pour les enfants, on va y revenir, pourquoi ce paludisme pédiatrique est-il plus grave ? Comment on décide d'aller à l'hôpital et comment ensuite le médecin va pouvoir trancher entre la fièvre, ou même une grippe, et un palu ?
Alors, c'est toute la difficulté. Et avant qu'on ait ces fameux tests de diagnostic rapide, il y avait des moyens de faire le diagnostic avec ce que beaucoup d'entre vos éditeurs connaissent, qui est le fameux frottis goutte épaisse. Mais ça demande une certaine technicité qui n'existe pas partout. Et quand on n'avait pas les tests rapides et qu'on n'avait pas la possibilité de faire ce fameux frottis goutte épaisse, eh bien, justement, on n'avait pas d'autre choix que de considérer que toute fièvre était un paludisme. Ce qui a eu des effets très positifs, parce que ça a certainement limité de la mortalité, mais également des effets négatifs, parce qu'il y a eu une surconsommation de médicaments antipaludiques, et ce qui a fait le lit d'un phénomène dont on va reparler certainement tout à l'heure, qui est la résistance du parasite aux antipaludiques.
Alors on a dit ces diagnostics rapides, ce qui permet en fait d'aller jusque dans les villages, hein, pour détecter les cas éventuellement, être auprès des populations en fonction de leurs besoins concrets, combattre le paludisme justement directement au cœur de la communauté, répondre aux besoins de la population, professeur Bouchaud, c'est la vision qu'avait une des figures, hein, de lutte lutte contre la maladie. Le professeur Ogobara Dumbo, médecin-chercheur malien qui s'est éteint le 9 juin dernier, c'est primordial justement cette façon d'aller directement dans la population pour attaquer de front cette maladie qui tue dans les familles.
Alors c'est primordial et c'est l'occasion de rendre hommage à Ogobara Dumbo qui a été un immense chercheur, mais de renommée internationale. Hein. C'est vraiment, ça a été un des grands leaders de la recherche contre le paludisme dans le monde. Et c'était à la fois un chercheur de laboratoire, mais à la fois un chercheur de terrain. Et effectivement, il y a des études qui avaient montré que, puisque la mortalité dans le paludisme, c'est essentiellement les enfants, et notamment les jeunes enfants, les enfants de moins de 5 ans, pour les problèmes d'immunité sur lesquels on reviendra peut-être tout à l'heure. Donc il y avait des études qui avaient montré que 90% des enfants qui mouraient de paludisme mouraient avant même d'avoir pu atteindre un centre de santé. D'où l'idée, puisque en Afrique, tout le monde sait qu'il faut parfois des heures, voire des jours pour atteindre un centre de santé quand on est en zone isolée. C'est particulièrement le cas au Congo, dont on va reparler tout à l'heure avec mon ami et collègue Hippolyte. Et donc, on a mis en place des stratégies, plutôt que ce soit les patients, et notamment les petits patients qui viennent vers les centres de santé, on forme ce qu'on appelle des relais communautaires, donc ils sont en général des femmes qui sont choisies par la communauté, qui sont formées, alors assez succinctement, mais ça suffit, à premièrement identifier la fièvre, parce que c'est pas aussi simple que ça quand on n'a pas de thermomètre de savoir qu'un enfant a de la fièvre.
Surtout en milieu tropical.
Surtout en milieu tropical. Et ensuite, à faire un test rapide. Et s'il est positif, à donner le traitement. Et comme ça, ça peut se faire dans un délai très très court. Et ça a contribué considérablement à réduire la mortalité des enfants.
Délégation de soins très très important pour aller au cœur de la communauté, justement pour cibler ces populations vulnérables. On souligne justement, on y revient, ces enfants de moins de 5 ans, particulièrement vulnérables. C'est une maladie, le paludisme, qui inquiète toutes les mamans en Afrique, on le comprend bien. Comment expliquer que ces bébés soient justement si fragiles ?
Alors, les enfants et notamment les bébés sont fragiles par essence, si je puis dire. Mais il y a surtout un phénomène que j'ai évoqué tout à l'heure, qui est le phénomène d'immunité. Alors, c'est un phénomène un peu complexe, parce que je pense que beaucoup d'entre nous ont en tête l'immunité qui évite d'être de nouveau malade quand on a déjà été infecté. Par exemple, quand la rougeole est une infection virale très classique, quand on a fait une rougeole une fois dans sa vie, on n'en refera pas. On a ce qu'on appelle une immunité stérilisante, c'est-à-dire dès que le virus est de nouveau en contact avec la personne, le système immunitaire le bloque totalement et on ne refera pas d'immunité de rougeole. Par contre, dans le paludisme, ça n'est malheureusement pas comme ça. Mais il y a quand même une immunité qu'on appelle une immunité relative. Les Anglais appellent ça la semi-immunity, une demi-immunité, si je puis dire. Et en français, on appelle ça la prémunition, qui fait que à force d'être mis au contact du parasite, et plus on est mis au contact du parasite, paradoxalement, plus on va développer une immunité. Mais il faut à peu près 5 ans de mise au contact quasiment quotidienne, ou en tout cas très fréquente, pour pouvoir arriver à développer une immunité, donc cette prémunition, qui va pas éviter de faire des crises de paludisme, mais qui va en réduire le nombre et qui va surtout limiter la multiplication du parasite et donc éviter, ou en tout cas sévèrement limiter la mortalité.
Alors, lorsqu'on parle du paludisme, on évoque bien sûr les traitements, l'immunité, les symptômes, la prise en charge, mais aussi on parle de l'environnement. C'est précisément avant la saison des pluies qu'il faut cibler certaines actions de prévention.
Priorité santé sur RFI.
Et illustration, dans le centre du Ghana, sur place pour faire face à la résistance des moustiques, le vecteur, un nouveau produit, c'est un insecticide de troisième génération qui est pulvérisé sur les murs intérieurs des maisons. Le Ghana, où le nombre de morts a été divisé par plus de 3 en l'espace de 5 ans pour atteindre 600 décès l'an passé. Reportage signé à Blajounaïdi.
Combinaison étanche et masque sur le visage, Malik Hassan et son équipe pulvérisent méthodiquement les murs d'une maison. Les affaires de la famille Mensa ont été préalablement disposées dans la cour pour éviter d'être en contact avec le Sumishield, un insecticide nouvelle génération à effet longue durée.
Ici. Voilà, l'opération est terminée et regardez derrière vous, on a éloigné le lit du mur, on a mis un tissu dessus, comme le frigidaire, pour les protéger.
And this is their freezer. It has also been covered.
Parce que le produit est incolore et inodore, donc indétectable.
The insecticide is colorless and doesn't smell. If there are droplets, they will not be able to know.
Béatrice Mensa, la maîtresse de maison, attend avec ses trois enfants dans la cour, près de ses affaires rassemblées en tas. Elle n'a jamais souffert du paludisme, mais lorsqu'un relais communautaire est venu lui expliquer le principe de ce nouvel insecticide, elle s'est vite laissée convaincre de faire traiter sa maison.
On a beaucoup de problèmes avec les mouches. On m'a expliqué qu'en traitant ma maison avec ce nouveau produit, j'en serais débarrassée.
Les opérateurs du programme AngloGold Ashanti Malaria Control, financé en partie par la fameuse société minière du même nom, principal employeur de la région d'Obuasi, doivent aussi expliquer aux populations que le paludisme reste un danger mortel. Samuel Achedou est le responsable de ce programme.
Au départ, AngloGold Ashanti s'est attaqué au paludisme parce que la maladie avait un impact immense sur sa productivité, sur la santé des travailleurs et leurs familles, les enfants et les femmes enceintes, dans les zones d'activité de l'entreprise. Aujourd'hui, on gère la lutte antivectorielle. Ça passe avant tout par la pulvérisation d'insecticides, comme vous l'avez vu à Obuasi. Mais on fait aussi ce qu'on appelle du contrôle environnemental, pour s'assurer qu'il n'y a pas de nouveaux sites de prolifération de larves. Cela permet aussi de réduire la population des moustiques.
Des moustiques de plus en plus résistants qui menacent les progrès enregistrés dans la lutte contre le paludisme ces dernières années. Le nouvel insecticide élaboré par la firme japonaise Sumimoto doit aider à répondre à la résistance des moustiques en permettant d'alterner plusieurs classes de produits. Mais est-ce sans danger pour la santé et la nature ? Alexandra Cameron est directrice technique du programme Paludisme à l'organisation internationale United. Cette organisation a financé en partie le programme de déploiement de cet insecticide.
En tant qu'organisation internationale, nous faisons confiance aux avis de l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS a pré-certifié l'insecticide SemiShield, qui est à base de néonicotinoïdes, mais pas dans les mêmes concentrations que dans les produits à usage agricole. Pour ce qui est des questions de toxicité et de sûreté, nous faisons également confiance à l'OMS et à ses processus de certification.
À Obuasi, on peut désormais accueillir la pluie. La campagne de vaporisation s'achève et couvrira en tout 1,2 million de personnes dans le nord du pays. Les organisations, United et les autres, espèrent que les bailleurs de fonds s'inspireront de cette initiative novatrice pour renforcer leur soutien financier aux pays africains dans la lutte contre le paludisme, une aide internationale qui a tendance à baisser ces dernières années.
Reportage d'Abla Jounaidi au Ghana, professeur Olivier Bouchot, un mot qu'on entend beaucoup depuis le début de cette émission, résistance, parasite résistant, vecteur résistant. Comment ça s'explique, cette capacité incroyable d'adaptation ?
Ah ben ça, c'est les mystères de la nature et de la biologie. Et effectivement, les parasites trouvent le moyen, à force d'être mis au contact des médicaments, trouvent le moyen de contourner leur action. Alors c'est un phénomène assez complexe, qui à la fois est un phénomène naturel, c'est-à-dire que quand les parasites, mais ça c'est vrai pour les autres microbes, se multiplient, il y a des petites erreurs génétiques qui font que les sites d'action des médicaments peuvent être un petit peu perturbés, et du coup les médicaments perdent l'efficacité. Et ensuite, quand ces parasites, qui ont été donc un tout petit peu modifiés génétiquement, sont exposés à l'action des médicaments, si les parasites qui restent sensibles sont détruits, et ne va plus rester que les parasites résistants aux médicaments. Et c'est comme ça que la résistance se développe et diffuse.
Et s'installe. Professeur Olivier Bouchot, on va tout de suite donner la parole pour répondre aux questions des auditeurs de Priorité Santé.
Priorité Santé sur RFI.
Le premier de ces auditeurs nous appelle du Congo, de Brazzaville. Bonjour Fortuné.
Bonjour Madame, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
On vous écoute Fortuné.
Bon. Oui, bon, j'ai un enfant de 3 ans. Le palu ne fait que revenir sur le ton du grave. À tout moment, je ne sais pas quelles sont les mesures de prévention à prendre. Même là où je vous parle, je suis à l'hôpital avec l'enfant.
Oui. Professeur Bouchot.
Oui, bonjour monsieur. Alors, c'est évidemment difficile pour moi de répondre de façon extrêmement précise à votre question et je comprends bien votre préoccupation. Disons que la première chose à garder en tête, c'est que, comme on le disait tout à l'heure, fièvre n'est pas forcément égale à paludisme. Donc, quand vous avez l'impression que tous les 3 mois à peu près, elle a un paludisme, et j'imagine que c'est parce qu'elle a de la fièvre, ça n'est pas forcément à chaque fois du paludisme. Ça peut être une maladie virale, ça peut être n'importe quelle autre maladie infectieuse. Une autre possibilité, c'est qu'elle puisse être infectée par un de ces parasites qu'on a évoqué tout à l'heure, qui ont ces formes de refuge à l'intérieur du corps et qui peuvent ressortir à distance, même si elle n'est pas réinfectée. Maintenant, quand on vit à Brazzaville, qui est un endroit où il y a, enfin, vous savez mieux que moi, une transmission de paludisme très intense, il peut y avoir aussi des réinfections, ça c'est tout à fait authentique.
Fortuné, est-ce que vous protégez votre petite fille avec une moustiquaire à la maison? Vous avez vérifié qu'autour il n'y a pas de plan d'eau. Est-ce que vous avez des mesures justement pour éviter le risque de transmission par les moustiques?
Oui, nous utilisons des moustiquaires. Mais le grand problème, c'est que est-ce qu'il y a un traitement préventif ou bien un vaccin pour ça? Parce que toutefois, je ne fais que repartir à l'hôpital.
Alors, de vaccins, malheureusement, non. Il y a eu une tentative de vaccin, mais qui ne donne pas satisfaction. Des moyens préventifs, alors oui, il y en a, sous forme de médicaments, mais c'est un petit peu une arme à double tranchant, parce que si vous donnez un médicament préventif à votre fille, elle ne développera pas cette immunité dont je parlais tout à l'heure, et elle restera toujours exposée au risque de paludisme, sachant qu'elle ne va pas pouvoir prendre toute sa vie des comprimés. Alors qu'à l'inverse, si elle fait des crises de paludisme petit à petit, tout à l'heure on a dit qu'il faut à peu près 5 ans, petit à petit elle va développer cette immunité qui va la protéger, en tout cas relativement, et en tout cas des formes graves. Et donc l'important, c'est que les accès fébriles qu'elle fait actuellement soient diagnostiqués, alors dans la mesure du possible, je ne sais pas très bien dans quelles conditions vous êtes et dans quelles conditions vous pouvez avoir accès à un diagnostic fiable, mais soient diagnostiqués. Si c'est du paludisme, il faut qu'il soit traité très précocement pour éviter que ça s'aggrave. Et si c'est pas du paludisme, il faut que la cause identifiée soit traitée comme telle.
Voilà, Fortuné, pour ces recommandations du professeur Olivier Bouchot. On va partir à présent pour le Cameroun, Yaoundé, où l'on rejoint Joël. Bonjour Joël.
Bonjour Caroline.
On vous écoute.
Oui, je fais une crise de paludisme depuis la fin de la semaine passée là. Ce qui a été remarquable, à côté des fièvres, maux de tête, c'est comme, je sais pas, quand dans la nuit, j'avais des troubles d'imagination, là. C'était tellement fort. Et je suis allé me faire consulter. L'infirmière a trouvé une parasitémie de 15 trophos par micromillilitre de sang. Elle m'a mis sur la injection. J'avais deux questions à poser. La première était celle de savoir, est-ce que durant une crise de paralysie, les symptômes évoluent avec la maladie? Et la seconde, c'est si le marché actuellement, quelle est la molécule efficace contre le paludisme?
Deux questions sur le déroulement de la crise et sur les traitements, professeur Bouchot.
Alors oui, la crise évolue, c'est-à-dire qu'au début, sont des accès de fièvre avec des frissons, des sueurs, une grande sensation de froid. Qui apparaissent, qui disparaissent spontanément et qui réapparaissent un peu plus tard. Ça, c'est lié, on ne va pas entrer dans les détails techniques, mais c'est lié au cycle parasitaire du parasite. Et puis, après, ces crises se rapprochent. Et s'il n'y a pas de traitement, alors le délai est très variable, ça dépend d'un tas de facteurs, on va évoluer vers les formes de paludisme grave. Et il semble, d'après ce que vous nous dites, que vous avez fait un paludisme grave, avec une atteinte du cerveau, et qui peut entraîner ce qu'on appelle le paludisme cérébral, ou ce qu'on appelait autrefois le neuropaludisme, qui lui peut être extrêmement grave, puisque c'est par ce biais-là, si je puis dire, qu'on peut aller vers un décès.
Est-ce qu'il y a des séquelles sur ce paludisme qualifié de grave?
Alors, pour les adultes en général, non. Quand on en réchappe, on n'a pas de séquelles. Alors, on peut avoir des séquelles liées à la réanimation elle-même, quand on est patient en séance de réanimation, mais pas, en général pas liées au parasite lui-même. Par contre, chez les enfants, où le mécanisme est un petit peu différent chez les enfants, ce qu'on ne voit pas chez les adultes, et pour des raisons qui ne sont pas très très claires, il y a une espèce d'inflammation très forte de l'ensemble du cerveau, avec ce qu'on appelle un œdème du cerveau, qui lui, par contre, peut laisser des séquelles.
Et Joël, cette question qu'il vous a posée au sujet des traitements difficiles, peut-être de citer les noms, c'est peut-être des noms un petit peu barbares.
Alors c'est des noms un petit peu barbares, mais il y a un acronyme, donc des initiales qu'il faut retenir, qui s'appelle ACT en anglais ou CTA, qui sont en français, qui sont ces fameux médicaments qui sont maintenant la référence en matière de traitement du paludisme, qui associent deux molécules chimiques, deux médicaments différents, si on peut dire, dont l'un est obligatoirement un dérivé de cette fameuse molécule dont vous avez souvent parlé ici à Priorité Santé, qui est l'artémisinine, qui est un produit chimique dérivé d'une plante traditionnelle chinoise qui, malgré des problèmes de résistance qui commencent à apparaître, mais qui touche très peu l'Afrique, qui est extrêmement efficace et qui, associé à une deuxième molécule, permet d'avoir des traitements extrêmement efficaces. Alors, je pense que c'est pas choquant de citer un nom commercial ici. Mmh. Un des plus connus et des plus distribués, et je crois qu'il est disponible au Cameroun, c'est le Coartem, qui est une association donc avec un dérivé de l'artémisinine et une autre molécule à durée d'action plus longue, ce qui fait que c'est-à-dire que le médicament reste longtemps dans le sang, ce qui fait qu'un traitement qui s'étale sur seulement 3 jours permet de traiter très correctement et très efficacement la crise.
Voilà, Joël, pour ces réponses du professeur Bouchot. Très bonne journée à vous à Yaoundé. On va partir pour la République démocratique du Congo, retrouver à Kinshasa Tina. Bonjour Tina.
Bonjour.
On vous écoute Tina.
Oui, ok. J'aimerais savoir quelle est la durabilité du produit dans la moustiquaire. Et puis, j'aimerais savoir est-ce que c'est nocif, parce que dernièrement, j'avais acheté des moustiquaires et j'ai respecté la consigne selon laquelle il fallait l'étaler pendant 48 heures ou 24 heures, je crois. Mais lorsqu'on a placé la moustiquaire, on a eu des picotements, ça nous a vraiment gênés. Et j'aimerais un peu savoir c'est quel type de produit qu'on met là-dedans.
Tina qui s'interroge après des réactions aux insecticides, vraisemblablement.
Alors oui, c'est un problème qui est tout à fait connu. Faut pas vous en inquiéter. Le produit qui est habituellement utilisé pour imprégner les moustiquaires s'appelle la permétrine. C'est un produit qui existe depuis assez longtemps. Alors ce qui est très important dans les moustiquaires imprégnés, c'est que l'imprégnation soit faite de façon industrielle, c'est-à-dire que les fibres de la moustiquaire soient très profondément infiltré par ce produit, et ça permet d'avoir ce qu'on appelle dans le jargon une rémanence, c'est-à-dire en fait une durée d'action qui peut durer plusieurs années, puisque ça peut aller jusqu'à 3 ans, voire même 5 ans avec les techniques les plus récentes. Et donc pendant 3 ans ou 5 ans, vous avez une moustiquaire qui garde son efficacité répulsive vis-à-vis des moustiques. Alors comme c'est un produit qui est assez concentré, puisqu'il doit bien imprégner les fibres, il est vendu, la moustiquaire imprégnée est en général vendue dans un sac en plastique pour préserver cette efficacité, et quand vous ouvrez le sac, vous allez avoir une bouffée de produit qui va vous sauter au nez, entre guillemets. Il n'y a pas de danger particulier, mais c'est vrai que c'est pas la peine d'aller renifler ça de trop près. Donc il faut laisser s'aérer la moustiquaire pendant 1 ou 2 jours, et puis ensuite l'installer. Et après ce moment initial, il y a plus cette gêne que vous avez pu ressentir, mais qui n'a pas de conséquences pour vous, dans la mesure où ça a duré un temps très court.
Voilà pour cette réponse, Tina. Bonne journée à vous, à Kinshasa. Kinshasa, où on va repartir dans quelques minutes, mais entre-temps, on s'arrête au Tchad, à N'Djamena, retrouver Judita. Bonjour, Judita.
Bonjour.
On vous écoute.
J'ai mon enfant à l'âge de 2 ans. Depuis qu'il avait 3 mois, il était attaqué par le paludisme. Et maintenant, cela devient un peu compliqué, dans lequel, si ça commence avec ses contracts sous forme, je n'arrive plus à comprendre si ça change d'allure ou bien je n'arrive plus à comprendre quoi.
Votre bébé a quoi? Des convulsions?
Oui.
Il fait des crises ou il est tout contracté? Qu'est-ce que vous a dit le médecin?
On était à l'hôpital, il me dit que j'avais laissé le paludisme trop l'infecter, des trucs comme ça, il me dit d'inquiéter.
Est-ce que ça veut dire, professeur Olivier Bouchot, que Judita fait face à ce que vous décriviez tout à l'heure comme un paludisme grave, avec éventuellement une atteinte du cerveau de son bébé, c'est ça?
Écoutez, oui, c'est évidemment difficile pour moi d'être très précis, mais si c'est bien un paludisme, tel que ce que raconte Judita, sa fille a probablement fait un paludisme grave avec une atteinte du cerveau. Et ce fameux œdème dont je parlais tout à l'heure, il faut bien se rendre compte que le cerveau, qui est un organe extrêmement important, comme chacun sait, il est très contraint dans la boîte crânienne, dans le crâne, et dès qu'il y a de l'œdème dans le cerveau, forcément le cerveau va être comprimé contre les os du crâne. Et ça peut entraîner des dégâts au niveau cérébral. Alors je peux pas vous dire si c'est définitif ou si c'est lié uniquement à ça, mais c'est peut-être l'explication.
Voilà, Juditha, cette réponse du professeur Bouchot. Bonne journée à vous au Tchad. On va partir à présent. On retourne au Cameroun, la ville de Bandjok, où l'on retrouve Hadji. Hadji, bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute, Hadji.
Oui, je interviens là parce que j'ai été régulièrement malade du paludisme. Ça fait beaucoup d'années, chaque année, je suis malade, généralement le mois de septembre. Et seulement ces deux dernières années, je suis tombé malade le mois de mai. Et en dehors de cela, chaque fois que je fais du sport, après la reprise du foot, quelques jours après, c'est encore la maladie, le palud toujours. Et dans les symptômes, souvent c'est compliqué parce que quand je vais même à l'hôpital, je n'ai pas la fièvre. Généralement, c'est 36-37 degrés. Donc, vraiment, c'est des difficultés dans ma vie. J'aimerais vraiment avoir une solution chez vous aussi possible parce que j'aimerais en sortir définitivement.
Hadji, à chaque fois que vous allez à l'hôpital, vous êtes testé, on vous confirme à chaque fois que c'est bel et bien un paludisme ?
Exact, exact. Et là, les précautions que je prends, je dors dans des moustiquaires imprimés, mais malgré ça, chaque année, je suis malade. Et surtout, également, j'ai peur de reprendre, de faire du sport, parce que après le sport, c'est également cette maladie-là qui revient.
Professeur Bouchot, plusieurs de nos auditeurs d'ailleurs s'interrogent sur ce caractère saisonnier du paludisme, des paludismes récurrents. Ils disent fréquemment ressentir aux mêmes périodes les mêmes symptômes, revivre en fait le même cauchemar. Qu'est-ce qu'on peut leur dire ?
Alors, c'est évident qu'il y a un lien entre saison et paludisme, puisque en période de saison des pluies et dans les semaines qui suivent la fin de la saison des pluies, il y a beaucoup plus de paludisme, puisque ça favorise la pullulation des vecteurs. Alors, pour Hadji, j'avoue ne pas savoir où se situe Mandjok au Cameroun, parce que le Cameroun est assez particulier puisqu'il s'étend beaucoup entre le nord et le sud. Et dans le nord, on est dans le système sahélien avec une saison des pluies qui est très marquée. Dans le sud, on est plutôt sur le système Afrique centrale avec une humidité qui est quasi permanente toute l'année et donc une transmission du paludisme qui est quasi permanente toute l'année. Alors, pour répondre plus précisément à Hadji, même si c'est, encore une fois, c'est difficile pour moi de savoir exactement ce qui se passe, il y a une difficulté particulière qui est que quand on a acquis une bonne immunité, on peut très bien avoir du parasite dans le sang, mais à un niveau faible et qui n'est pas responsable du malaise ou de la fièvre. Et ça, c'est un piège parce que si on vous fait une prise de sang,
on va être testé positif,
voilà,
c'est un faux
on va
positif.
Vous dire, ben voilà, c'est positif. Et de fait, vous avez du parasite. Mais le parasite, il s'est, à cette dose faible dans votre corps, il s'est acclimaté, ou plutôt votre corps s'est acclimaté à ce parasite, qui n'est pas responsable de la fièvre ou du malaise, mais c'est le diagnostic qu'on va vous fournir parce qu'il tombe sous les yeux, si je puis dire. Alors qu'en fait, vous avez autre chose. Donc ça mériterait d'approfondir un petit peu le diagnostic.
Voilà, Hadji, bonne journée chez vous au Cameroun. Il nous reste peu de temps, mais on va quand même tout de suite partir pour Kinshasa.
Priorité santé sur RFI.
Professeur Hippolyte Sitwakibanza, bonjour.
Bonjour.
Et je laisse aussi le professeur Bouchot vous saluer.
Bonjour Hippolyte.
Puisque j'ai cru comprendre tout à l'heure que vous aviez travaillé ensemble. Professeur Sitwakibanza, quel chiffre aujourd'hui sur la prévalence du paludisme dans votre pays, la RDC ?
Merci beaucoup madame, mais je voudrais d'abord présenter Tous mes respects à la mémoire de mon maître, le professeur Ogobara, du centre de recherche à Bamako. Pour revenir à votre question, le rapport 2017 du Programme national de lutte contre le paludisme en République du Congo rapporte 15 272 767 cas de paludisme, toutes formes confondues. Et là, il faut compter 1 786 327 cas de paludisme simple contre 1 486 440 cas de paludisme grave.
Des chiffres très importants, on le disait tout à l'heure, votre pays qui est particulièrement touché. Alors, quels traitements sont à la disposition des Congolais? Est-ce qu'il y a un bon accès justement à ces traitements en milieu rural, professeur Sitwaki Banza?
Au niveau du programme national, au niveau pays, nous avons retenu pour les paludismes simples trois combinaisons. Nous avons la tésinate amodiaquine, la thymétère lumefantrine. Et là où il y a contre-indication, le dérivé d'atémisinine, nous prescrivons la quinine associée à la clindamycine. Quant au paludisme grave, nous prenons la tésinate injectable ou la quinine injectable. Les problèmes, évidemment, les tournants étant un sous-continent, je ne pourrais pas confirmer ici que l'accès est aisé partout à travers les pays. Toutefois, un effort est fourni de parce que la plus grande majorité de notre population ait accès à ces outils. Et grâce au partenariat public et privé, à travers les ONG, à travers les confessions religieuses et autres, de plus en plus, la population est en train d'accéder à ces outils dans la prise en charge du traitement contre le paludisme, madame.
Une dernière question, professeur, qui concerne la recherche. Est-ce qu'il y a justement des programmes, des activités qui sont menées, notamment à Kinshasa?
Oui. Et puis, madame, la communication.
Mauvaise liaison, oui. Je vous posais une question sur la recherche, les programmes engagés à Kinshasa, justement, programmes de recherche de lutte contre le paludisme.
Exactement, madame, les travaux de recherche se font sur différentes pistes, notamment la co-infection VIH-paludisme, l'infection à VIH chez les dépensitaires, le portage asymptomatique chez les sujets et tant d'autres travaux, notamment aussi les travaux sur les résistances. Mais j'ai la joie, madame, de vous informer que jusqu'à ce jour, on n'a pas de cas de résistance documentés. Par contre, il a été observé des cas d'échecs thérapeutiques, notamment à la thymétère lumefantrine. Évidemment, les raisons et les facteurs à la base d'échecs thérapeutiques sont multiples, comme venait de l'évoquer tout à l'heure mon ami le professeur Bouchot. Il y a l'immunité. La réponse thérapeutique efficace passe également par l'immunité que possède la personne, mais il y a aussi le problème du respect, l'observance, la façon de prendre les médicaments aux heures et selon le prescrit du fabricant. Et tant d'autres autres raisons, mais aussi comme a dit le professeur Bouchot, il y a le problème de comorbidité. De comorbidité, on peut présenter une fièvre dans un cadre où il y a plusieurs étiologies microbiennes. On peut soigner correctement la malaria, mais si on ne prend pas en compte les autres causes, le tableau va continuer à persister.
Merci beaucoup. Merci, professeur Hippolyte Sitwaki Banza. Nos excuses pour la qualité de la ligne qui n'a pas été très très bonne, un peu de difficulté à vous entendre. Je rappelle que vous êtes expert au Programme national de lutte contre le paludisme, maître de la chaire des maladies infectieuses et tropicales de l'Université de Kinshasa. Une question importante, professeur Olivier Bouchot, tout à l'heure vous l'aviez dit rapidement, ces cas pour celles et ceux qui voyagent, tourisme ou famille, comment se prémunir lorsque l'on part dans des zones impaludées et comment être bien prise en charge quand on rentre par exemple en Europe et qu'on n'a pas forcément des services spécialisés en maladies tropicales?
Alors c'est une question très importante et ça il faut bien que nos compatriotes qui sont originaires d'Afrique, qui vivent en France et qui repartent au pays pour les vacances ou pour d'autres raisons prennent bien conscience que l'immunité qu'ils ont pu acquérir quand ils vivaient au pays disparaît, pas complètement, mais en grande partie, assez rapidement après leur installation en France et en Europe.
Et je vais vous traduire crûment. C'est pas parce qu'on est d'origine africaine qu'on est protégé contre le paludisme.
C'est exactement ça.
Voilà.
Et donc, il faut vous considérer comme, alors je mets plein de guillemets, comme des blancs. Quand vous repartez au pays, il faut absolument prendre les mêmes précautions que les autres voyageurs, c'est-à-dire les répulsifs, même si c'est pas toujours très très facile de les utiliser sur place, mais surtout, parce que c'est quand même elle qui est la plus efficace, la chimioprophylaxie. Et il y a 3 médicaments qui sont couramment utilisés, que vos médecins pourront vous prescrire, et quand c'est bien pris, c'est quand même extrêmement efficace. Il faut pas oublier que le paludisme tue. Alors beaucoup en Afrique évidemment, très peu en France, mais les 10 ou 15 ou 20 morts par an en France sont à chaque fois des morts absolument inacceptables pour, chez des gens en général jeunes et pour une maladie qui se diagnostique assez facilement. Ce qui veut dire que quand on revient et qu'on a de la fièvre, il faut systématiquement, quoi qu'on ait fait, quoi qu'on n'ait pas fait, il faut systématiquement aller consulter en disant « je reviens d'Afrique ». Et même en disant, c'est peut-être un paludisme.
Et je vous le dis, hein, nous, quand on revient, on est suivi de près. On nous dit toujours, s'il y a la moindre fièvre, vous allez consulter. On ne rigole jamais avec ça, avec une fièvre de retour d'une zone tropicale. C'est vraiment quelque chose à dire à celles et à ceux qui nous écoutent.
C'est absolument capital. Je vais vous donner un chiffre qui à la fois peut paraître faible, mais qui est en fait beaucoup. Quand on va en Afrique, pour un séjour d'un mois, on a entre 1 et 3%, évidemment si on prend aucune précaution, de revenir avec un paludisme. Sur l'ensemble des gens qui partent tous les ans en Afrique, ça représente un risque absolument significatif. Et quand on est originaire d'Afrique, en général, on repart au village, ou même si on est dans les capitales, on vit dans des conditions moins privilégiées que les autres voyageurs, et donc on est exposé.
Merci beaucoup, professeur Olivier Bouchot. Je rappelle que vous êtes responsable du service des maladies infectieuses et tropicales au CHU à Vicennes, à Bobigny, en région parisienne. Et à très bientôt dans Priorité Santé. Les questions des auditeurs, on retrouve avec nous le docteur Catherine Solano, sexologue. Catherine, bonjour.
Bonjour Caroline.
Et une question de Freshnel qui est à Brazzaville, au Congo. Bonjour Freshnel.
Bonjour.
Le docteur Catherine Solano vous écoute, vous pouvez lui poser votre question.
Oui, docteur Solano, en fait, moi, ma préoccupation c'était la suivante. J'ai une relation, elle ma compagne a du mal à avoir de l'orgasme avec moi, ma poussure avec un sextoy. À coup sûr, mais pas avec la pénétration. Elle cherche une zone érogène sur son clitoris, ça vibre, puis à coup sûr, elle a un orgasme avec moi, c'est un peu dur là. Vraiment, on arrive très très rarement, ou jamais quoi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quel est le problème en fait?
Alors déjà, ce que je peux vous dire, c'est ce qui vous arrive, c'est normal. C'est pas vous qui avez un problème ou qui savez pas bien faire l'amour, mais je vais vous expliquer quelques éléments pour que vous compreniez bien. D'abord, un sextoy, comme vous dites, c'est vibrant. Et le problème, c'est que les vibrations, c'est quelque chose de pas du tout naturel, parce que personne, aucun humain n'est vibrant, vous voyez. Mais c'est plus efficace que les caresses manuelles pour déclencher un orgasme. Et donc, et d'ailleurs, c'est pareil chez les hommes. Les hommes qui ont des difficultés d'éjaculation, par exemple, les hommes paraplégiques qui sont en fauteuil roulant, pour déclencher une éjaculation, on prend un vibromasseur, un sextoy vibrant, on le pose sur le pénis et ça va beaucoup plus facilement déclencher une éjaculation. Voilà. Donc le sextoy, ça, c'est normal que ça déclenche plus facilement un orgasme. C'est la première chose. La deuxième chose qui embêtante dans votre cas, c'est que si une femme s'habitue, c'est pas si une femme, c'est si le cerveau d'une femme s'habitue aux stimulations qui sont des vibrations par un sextoy ou autre chose d'ailleurs, eh bien ça va habituer son corps à réagir aux vibrations et ça va avoir tendance à faire que ça marche plus avec les caresses. C'est comme si le cerveau se disait, j'ai trouvé un raccourci qui marche très bien, pourquoi se fatiguer à prendre des chemins plus compliqués? Donc c'est un phénomène connu, il y a des femmes qui disent, avant j'avais des orgasmes avec mon compagnon, depuis que j'utilise un sextoy, j'en ai plus. Parce que le cerveau se dit, bah, j'ai trouvé plus simple. Bon, un troisième élément à connaître, et ça vous en avez parlé, vous avez tout dit dans votre question, Freshnel, c'est que la plupart des femmes ont facilement ou assez facilement des orgasmes dont le point de départ est le clitoris. Par contre, il y a beaucoup moins de femmes, seulement un tiers à peu près, qui ont des orgasmes qui vont être déclenchés par les mouvements de va-et-vient du pénis. Donc vous voyez, je vous dresse un tableau qui vous fait comprendre ce qui se passe.
Avec justement certainement cette question hein, qu'il faut reposer. Freshnell disait tout à l'heure, qu'est-ce que je peux faire pour que les choses changent ?
Voilà, alors ce que vous pouvez faire, la première chose, c'est de dire à votre compagne, est-ce que tu pourrais laisser tes sextoys de côté un moment ? Parce que si elle les utilise régulièrement, ça habitue de plus en plus son corps et de moins en moins à avoir des orgasmes avec vous. La deuxième chose, ça c'est pour vous, c'est de vous concentrer sur le clitoris de votre partenaire et pas sur la pénétration. Parce que si vous voulez, les femmes ont plus facilement des orgasmes avec les stimulations du clitoris, que ça soit manuel, que ça soit avec la bouche, que ça soit avec le coude, avec ce que vous voulez, le nez, vous le faites comme vous le sentez. Et alors, c'est pas seulement la manière de le faire, il faut lui demander ce qui est efficace chez elle comme stimulation. Quel type de stimulation est efficace au niveau de son clitoris ? Est-ce que c'est plutôt de frotter un petit peu, très doucement ? Est-ce que c'est les pressions appuyées ? Est-ce que c'est de le frôler ? Est-ce que c'est des tapotements ? Chaque femme ou chaque clitoris est différent à ce niveau-là. Et surtout aussi, trouver l'endroit le plus sensible au niveau du clitoris. Ça peut être le gland du clitoris, ça peut être sur le capuchon du clitoris qui est autour, ça peut être au-dessus ou à côté, parce qu'il y a des femmes trop sensibles, elles supportent pas directement sur le clitoris. Donc, il faut que vous trouviez, si on peut dire, le mode d'emploi de votre partenaire. Et surtout, j'ajoute un dernier conseil, mais capital, c'est qu'au début, donc vous allez vous entraîner, pendant un rapport sexuel, à stimuler le clitoris de votre partenaire. Pas forcément pendant la pénétration, mais ça peut aussi être pendant la pénétration. Il faut savoir que pour une femme qui n'a quasiment jamais eu d'orgasme de manière manuelle, quelquefois il faut 45 minutes à une heure de stimulation pour déclencher un orgasme. Ça ne veut pas dire que ça sera comme ça toute la vie, ça veut dire que si les circuits se mettent en place dans le cerveau, parce que c'est dans le cerveau que ça se déclenche, eh bien petit à petit ça va se faire de plus en plus facilement. Mais au début il faut de la patience.
Freshnell, vous êtes toujours à l'écoute, est-ce que les explications du docteur Catherine Solano...
Le problème, ça n'empêche pas qu'elle ait du plaisir, mais avec un homme, elle n'a jamais eu d'orgasme. On a déjà essayé avec le sextoy à deux, c'était bon.
Voilà.
Mais on ne saura pas toujours intervenir le sextoy, d'où ma question.
Eh bien voilà, au lieu d'utiliser un sextoy, il faut que vous utilisiez vos mains, votre bouche, votre langue, tout ce que vous voulez, pour qu'au niveau du clitoris, vous réussissiez à lui donner des stimulations. Ça va prendre beaucoup plus de temps qu'avec un sextoy. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas doué, c'est parce que ce n'est pas naturel. C'est notre cerveau, si vous voulez, la nature n'avait pas prévu que les vibrations électriques existent. Et du coup, il réagit de manière exagérée. Et du coup, ça marche. Si vous voulez, c'est un peu comme les drogues, vous voyez. Il y a des circuits d'endorphines qui sont des molécules qui apaisent la douleur, si on vous met de la morphine, ça marche encore mieux. Le problème, c'est qu'on s'y habitue. Vous voyez ce que je veux dire ?
Voilà, Freshnell, pour ces conseils du docteur Catherine Solano. Merci beaucoup de cet appel de Brazzaville au Congo. Et ces chroniques du docteur Solano, vous pouvez bien sûr les réécouter en podcast sur l'application Pure Radio, également sur le site internet rfi.fr dans la rubrique émission. Et notre émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. C'est Oussama Ké, Ophélie Lassène, Didier Bleu. Demain, nous parlerons du système de santé en Guyane. Gros plan sur l'hôpital de Cayenne. Un reportage réalisé par Igor Strauss. On se retrouve demain.
Priorité santé avec Sounou Assurance. Célébrez nos 20 ans d'assurance en découvrant votre profil sur monbonprofil.com. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.